Chapitre 35. La bienveillance d'un vieil homme sage. Mais s'il trébuche et tombe, s'il se blesse, je lui tiendrai la main. Il sera vite fatigué. Je le porterai. J'ai l'étoffe pour l'attacher dans mon dos. Tu sais qu'il aime ça. Clotilde est heureuse mais angoissée. Et s'il arrive quelque chose pendant qu'il est à la maison, elle se sentira coupable. Cependant, c'est tellement bon de lui dire bonne nuit dans son lit, de le voir arriver le matin dans les draps encore chauds de ses parents, de l'observer de loin retrouver ses jouets, ses puzzles, ses doudous. Simon a pu rentrer entre deux chimiothérapies. Il avait franchi le seuil fatidique minimum de globules blancs qui l'autorise à sortir de sa chambre stérile et à retrouver sa famille, entouré évidemment de précautions drastiques. Mais si toi tu tombes, il peut aussi tomber ici. Oui, mais ici, c'est propre. Elle a rangé, nettoyé, préparé, astiqué pour que la maison soit la plus saine possible. Alors Thomas qui lui propose d'emmener le petit en balade dans la forêt. Elle s'effondre sur la chaise de la cuisine, les bras ballants. Je ferai très attention. Ça lui fera du bien de respirer les arbres. Tu ne laisses rien ramasser, d'accord? Je ferai aussi attention que dans sa chambre stérile. L'enfant saute de joie en voyant son frère préparer le sac à dos bricolé dans du tissu. Il sait qu'ils vont partir. Thomas l'emmène sur leur sentier habituel, dans leur forêt, celle qu'ils arpentent depuis sa naissance. Simon marche une trentaine de mètres, mais ses muscles presque morts, ses tendons raccourcis d'avoir si peu bougé pendant plusieurs semaines le font rapidement souffrir. Et il rejoint avec soulagement le dos de l'homme suffisamment fort pour accueillir la brindille qu'il est devenu en cessant de manger. Il faut quand même que je t'emmène voir à quel point le refuge a évolué. Annabelle y a déjà aménagé beaucoup d'installations. On pourra en soigner tout plein. On ne va pas espérer que toutes sortes d'animaux se blessent sous prétexte qu'on a un abri pour les soigner. Non, mais si j'en parle à l'école, je suis sûre que mes copains en trouveront aussi. Thomas avance d'un bon pas. Il veut optimiser chaque seconde, n'en perdre aucune. Simon lui chuchote à l'oreille en désignant du doigt tout ce qui l'émerveille, encore plus maintenant. Les feuilles vertes dans le vent, la fourmilière tout au bord du chemin, les bouts de bois tordus à collectionner, le soleil à travers les feuillages qui vient déposer des étoiles dans le ruisseau tortueux chargé des eaux printanières. Il s'y arrête un instant. Simon y jette des petits morceaux de bois morts et légers et les contemple descendre le courant, puis disparaître quand le cours d'eau bifurque derrière un sapin. Il sourit à son grand frère. Il est heureux, plus heureux que jamais, car il savoure d'autant plus ces plaisirs-là qu'il en a été privé. Thomas le regarde avec bienveillance. Sait-il ce qu'il attend? Peut-être n'y pense-t-il pas. Il profite de l'instant, la force des enfants. Thomas aimerait en être un, pour ne pas réfléchir, pour ne pas avoir peur, pour ne pas se soucier de tous les à-côtés professionnels qui empiètent sur son temps de présence auprès de lui. Il n'est pas le père, juste le frère. Il n'a pas à passer ses journées à l'hôpital. Pourtant, il aimerait le faire pour gagner du temps sur celui qu'il risque de perdre. On leur parle toujours de taux de survie. On les prépare au pire. C'est à la fois humain et cruel. Est-ce qu'être préparé rend l'issue moins douloureuse? Cela permet tout au moins de vivre chaque moment avec l'intensité qu'il mérite. De toute façon, en le voyant ainsi accroupi au bord du ruisseau, plus aucune statistique n'a de sens. Comment imaginer qu'il puisse ne plus être là dans un mois, dans un an? Les petits morceaux de bois flottent, se rattrapent, se frôlent, se dépassent, tourbillonnent, plongent, puis resurgissent. Ils sont morts et pourtant bien vivants. En est-il de même de l'espèce humaine? Thomas s'astreint à cesser de penser à tout cela. Il s'est assis en amont du ruisseau, dans un parterre de muguet. Simon lui demande s'ils peuvent en cueillir pour sa maman. Après lui avoir expliqué qu'il ne vaut mieux pas, en raison de ses faibles défenses immunitaires, face à la toxicité de la plante, dont quelques grammes peuvent tuer un chat, il reprend son frère sur son dos et décide de faire un détour par la chênaie. Une parcelle de forêt privée où ils aiment depuis toujours s'arrêter. Le feuillage épars des chênes laisse passer suffisamment de lumière au sol pour que pousse de l'herbe, des fleurs, des petits arbustes. Et ces arbres d'âges différents, comme ils sont majestueux. Certains sont petits, encore protégés par un grillage contre l'attaque des animaux sauvages, qui viendraient volontiers en grignoter l'écorce fraîche. D'autres sont à leur adolescence de chêne. Les plus vieux sont prêts pour certains à être coupés, afin d'être transformés en meubles, en escaliers, en parquets de qualité. La parcelle située sur les hauteurs de Neubois, dans la forêt domaniale du château du Frankenbourg, transmise dans une même famille bourgeoise de génération en génération depuis des siècles, bénéficie d'une exploitation forestière intelligente et pérenne. Souvent, ils ont eu l'occasion de croiser le vieux propriétaire des lieux, à l'allure aristocratique, mais d'une grande simplicité de cœur et d'âme. Il peine désormais à arpenter certains talus abrupts et s'appuie plus fortement sur sa canne, mais il s'y promène quasi quotidiennement. Toujours un mot gentil, du temps à accorder, pour parler de la météo ou des chênes. Il n'a pas eu d'enfant, mais il n'abandonne pas la gestion du lieu, comme s'il allait transmettre son bien pour que d'autres poursuivent son œuvre des centaines d'années encore. C'est lui qu'ils aperçoivent sur le chemin en amont, sa casquette de laine sur la tête et la démarche lente. Il se promène avec son chien, un vieux beagle un peu gras, qui frôle le sol quand le terrain est irrégulier. Il a l'avantage d'aller au même rythme que son maître. « Bonjour !» dit Thomas essoufflé d'avoir porté Simon durant toute la côte pour rejoindre le marcheur. « Oh, les garçons ! Le petit est là ? Il a une permission ? J'espère que c'est bientôt la quille. Quelle quille ? Demande Simon, intrigué, avant que Thomas lui réponde qu'il lui expliquera plus tard. Votre chien renifle des choses ? Plus rien, tu penses. Voilà longtemps que son flair s'est émoussé. Mais il me tient compagnie, et c'est la seule mission que je lui confie encore. Vous faites le tour de vos arbres ? J'ai une commande importante. Certains ont plus de 150 ans. Je vais bientôt en couper quelques-uns. Ceux qui poussent à leurs pieds ont besoin de place. « Comment on sait qu'ils ont 150 ans ?» interroge Simon. « Normalement, on compte l'âge des arbres une fois qu'ils sont coupés, avec les stries. Mais j'ai un vieux registre où tout est écrit. Depuis plus de 200 ans. Ça risque de vous faire bizarre de les voir à terre. L'homme aussi meurt un jour, et les enfants poussent et deviennent vieux. C'est le cycle de la vie. Je me dis que ça fera de beaux ouvrages, qui dureront peut-être des siècles. Et j'en laisse quelques-uns sur pied, les plus beaux. Tenez, celui-là, un peu plus haut, dit l'homme en le désignant du doigt. Il a 350 ans. Ça peut vivre combien d'années, un chêne ? Demande l'enfant. Le plus vieux est danois et il a 1600 ans, mais c'est rare. On dit 100 ans pour pousser, 100 ans pour vivre, 100 ans pour mourir. En général, ils vivent donc 300 à 400 ans. Et puis un jour, fatigué et trop âgé, ils périssent sous l'attaque pernicieuse d'un champignon qui passe par là. Certains ont connu le château à la grande époque, mais tous gardent leurs secrets bien cachés sous l'écorce. Et vous, vous allez où comme ça ? Un peu en contrebas de votre parcelle, sur les hauteurs du village, nous construisons un refuge pour les animaux malades ou blessés. Voilà un joli projet ! Puis le vieil homme leur souhaite une belle fin de promenade et du courage pour la suite des traitements. Il est un des rares à qui Thomas a confié l'histoire de la maladie de Simon. L'octogénaire était si étonné de voir le jeune menuisier marcher seul dans la forêt, les mois précédents, alors que jusque-là il emmenait toujours son petit frère sur les sentiers vers le Frankenbourg. Il avait donc évoqué la situation. Il dégage tant de bienveillance. Ça fait du bien de pouvoir en parler, de se dire qu'on est moins seul. Même si l'homme n'y peut rien, même si ça ne changera pas le cours des choses. Les mots quittant la bouche de Thomas avaient emporté alors un peu du sombre désarroi dans lequel il baignait. En saluant M. Kuhn, Thomas ne se doute pas de la requête qu'il va lui faire quelques semaines plus tard.